Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pour espérer reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans, il faut vite se retrousser les manches. Une loi devrait rapidement donner un cadre légal aux dons versés pour la reconstruction de la cathédrale. Explication d'Anne Fauquemberg. Si la structure de Notre-Dame a résisté à l'incendie, les experts ont identifié plusieurs points de fragilité. Pompiers et experts du patrimoine travaillent toujours à la sécurisation du site. Petit coup de faiblesse pour la croissance allemande. Berlin table sur une hausse du PIB de 0,5% cette année, mais l'Allemagne va rebondir, assure son ministre de l'économie. Les États-Unis vont permettre des actions en justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba. La Havane, l'Union européenne et le Canada protestent. 2024, l'année des Jeux Olympiques à Paris, c'est l'échéance que s'est fixée le président pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Un défi immense, reconnaît Édouard Philippe, mais le gouvernement s'est aussitôt attelé à la tâche et le Conseil des ministres d'aujourd'hui a été entièrement consacré à cette problématique de la reconstruction du monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un projet de loi est déjà en préparation pour donner un cadre légal aux dons versés pour la reconstruction de la cathédrale gothique. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Le Premier ministre a esquissé ce midi les contours de ce texte qui sera présenté dès la semaine prochaine en Conseil des ministres.
Oui, l'État sera au rendez-vous, a insisté Édouard Philippe, et la législation va donc s'adapter. Ce projet de loi permettra de créer un établissement public dédié à la reconstruction de Notre-Dame afin de faciliter notamment les procédures juridiques pour ce chantier qui s'annonce tambour battant. Mais ce texte, il a aussi pour vocation d'encourager particuliers et entreprises à participer au financement des travaux avec une défiscalisation incitative, a détaillé le Premier ministre.
Les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 1 000 euros et de 66% au-delà de 1 000 euros. De leur côté, les entreprises bénéficieront des réductions d'impôts dites de mécénat dans les conditions actuelles. Nous ne modifierons pas l'état du droit en la matière. Nous avons donc opté pour un système incitatif qui s'adressera au plus grand nombre.
Plus de 850 millions de dons sont déjà promis. Le futur texte doit permettre d'assurer la transparence dans la gestion de tout cet argent. Un comité spécifique devrait donc voir le jour avec à sa tête le premier président de la Cour des comptes et les présidents en charge des finances et de la culture des deux chambres parlementaires. Et puis concernant les travaux, une organisation dédiée doit être créée au ministère de la Culture pour veiller à leur bon déroulement et coordonner la filière des métiers d'art. Enfin, il y aura une figure pour incarner ce chantier titanesque, un monsieur reconstruction. Emmanuel Macron a choisi l'ancien général 5 étoiles Jean-Louis Georgelin. Après 2 ans et demi de retraite, à 70 ans, ce passionné d'histoire et de littérature accepte de se remettre au service du pays.
Et puis il y aura un concours international d'architecture pour déterminer s'il faut reconstruire la flèche de Notre-Dame détruite dans l'incendie et si oui, comment. Alors vous évoquez les promesses de dons, Anne, qui s'élèvent ce soir à 850 millions d'euros. Cette générosité a suscité quelques réactions grinçantes de la part de représentants des Gilets jaunes, de la CGT ou encore de la France insoumise. Pour couper court aux critiques, la famille Pinault, qui s'était engagée à débloquer 100 millions d'euros, a précisé qu'elle renonçait à l'avantage fiscal lié à ce type de don. Le prélude de la première suite de Bach et la lecture d'un extrait de l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Une cérémonie sera organisée demain par la mairie de Paris pour rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à sauver la cathédrale. On pense tout naturellement aux pompiers de Paris. Bonsoir Maud Calvez.
Bonsoir.
Les pompiers dont l'intervention se poursuit à Notre-Dame puisqu'ils travaillent à la sécurisation du site.
Oui, une soixantaine sont encore sur place au cas où le feu repartirait. Bon, scénario très peu probable. Aux côtés des pompiers, plusieurs experts, ils font un état des lieux, ce qui est endommagé, ce qui doit être démonté. La structure est sauvegardée dans l'ensemble, mais reste extrêmement fragilisée, notamment 2 pignons soutenus par la charpente avant qu'elle ne brûle, le commandant Gabriel Plus.
L'ensemble des vitraux et les rosaces qui sont soutenus par ces pignons sont en bon état. Il s'agit maintenant pour ces pignons de ne pas tomber, puisqu'ils ne sont plus soutenus par la charpente du toit, de faire en sorte que ces pignons soient consolidés. Et ensuite, pourquoi pas pour certains, démonter pour quelques statues pour éviter que ces pignons ne flanchent. Le vent pouvant se lever, effectivement, il y a une menace sur ces pignons.
Le soir de l'incendie, les sapeurs-pompiers font tout ce qu'ils peuvent pour préserver le bâtiment. 18 lances à eau, plus de 400 hommes en action. L'adjudant-chef Philippe Demey raconte.
À partir du moment où on monte dans les différents accès, c'est que c'est étroit, c'est que c'est petit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le matériel est lourd, qui puisait pour mes hommes et pour les femmes que je suis amené à commander. Donc c'est vraiment du gros matériel à monter tout en haut des tours. Pour établir ces lances, il faut un petit peu de place. Et là, c'est un balcon qui fait une largeur environ d'un mètre. Et forcément, lorsqu'on ouvre la porte et on arrive donc sur ce balcon au dernier étage des tours, eh bien, on voit à ce moment-là cette scène de catastrophe avec quasiment la toiture qui commence à partir de tous les côtés. Et donc, on fait une action principale au départ, vraiment de lutte contre la propagation. Et ensuite, on essaie de prioriser son intervention.
Il se concentre donc sur les beffrois, trop tard pour le toit. Les pompiers connaissaient le bâtiment par cœur grâce jusqu'à ce lundi soir à des exercices incendies.
On connaît les accès, on connaît les moyens en eau, on connaît tout. Donc on a fait exactement tout ce qu'on pouvait faire avec les maximums de moyens. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'un bâtiment aussi ancien, aussi particulier. C'est pas évident.
Sans la rapidité de cette intervention, estime l'adjudant, les deux beffrois seraient tombés.
Merci Maud Calves. La question de la complicité est au cœur du procès en appel d'Abdelkader Merah. À l'encontre du frère du djihadiste toulousain Mohamed Merah, les représentants du ministère public ont réclamé hier une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Aujourd'hui, ce sont les plaidoiries de la défense. Le très médiatique avocat Éric Dupond-Moretti est en ce moment à la barre et deux collaborateurs ont plaidé avant lui. Compte rendu d'audience de Florence Thurm.
Les avocats généraux ont consacré hier une grande partie de leur réquisitoire à la complicité d'assassinat reproché à Abdelkader Merah, mais que la première cour d'assises n'avait pas retenu. L'enjeu principal est bien celui-là et Archibald Celeron va le premier s'attaquer à cette accusation. Démonstration sobre et précise qui commence par pointer la brouille des deux frères. Le 11 février 2012, ils ne sont pas réconciliés et la réalité de cette brouille anéantit l'idée qu'Abdelkader Merah ait participé aux préparatifs. Car Mohamed Merah, ajoute l'avocat, était déjà décidé à passer à l'action. Au cœur de l'accusation, il y a le vol du scooter. Ce jour-là, il est bien en voiture avec son frère, mais c'est un vol d'opportunité, lance Archibald Celeron. Les clés sont sur le contact. Abdelkader Merah n'a pas vu le vol se commettre, pas participé à la dissimulation du scooter. L'avocat continue d'égrener point par point la chronologie du dossier et la présidente prend des notes. Non, ce n'est pas lui qui s'est connecté à l'annonce du bon coin déposée par la première victime. Thèse largement soutenue par l'accusation. Il n'est pas intervenu dans le financement des voyages de son frère, il n'a pas participé à l'achat de la GoPro qui a filmé les assassinats, pas participé à l'achat des armes ni à leur maniement. Il termine son énumération. Aujourd'hui, pour ce deuxième procès, avec 14 témoins en moins, on vient vous agiter les mêmes fantasmes et j'affirme que la preuve de la culpabilité n'est pas rapportée. La salle comble est restée silencieuse, mais un murmure de protestation gronde sur les bancs de la partie civile quand Archibald Celeron conclut, comme il l'avait déjà fait, « Vous devez donc acquitter Abdelkader Merah ».
C'était à Clichy-sous-Bois le 25 mars dernier. Des Roms étaient pris pour cible, accusés d'avoir enlevé des adolescents. La rumeur avait été relayée sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, quatre jeunes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bobigny, soupçonnés d'avoir participé à ces violences contre les Roms. Vous suivez l'audience pour France Culture, Antoine Marette.
Ils sont quatre hommes, jeunes de 18 à 21 ans, à comparaître devant le tribunal de Bobigny. Tous reconnaissent plus ou moins avoir entendu parler de la fameuse rumeur qui empoisonne les réseaux sociaux. Des Roms seraient responsables d'enlèvements de mineurs dans la région au moyen d'une camionnette blanche. Mais aucun ne reconnaît s'être retrouvé intentionnellement sur le lieu des violences visant cette communauté ce soir-là. Deux rentraient du travail, l'un promenait son chien, un autre faisait ses courses. Chacun de leur côté, ils sont arrivés sur le parking au champ. Ils ont constaté des attroupements et par simple curiosité, ils sont allés voir. Sur place, des Roms tentent d'échapper à plusieurs dizaines de personnes armées de bâtons et de pelles en se réfugiant dans le centre commercial. Un peu plus tôt, ces Roms ont été chassés d'une maison qu'ils squattent à proximité. Des policiers de la BAC qui patrouillent dans le quartier voient un groupe d'individus frapper un homme à terre. Ils interpellent l'un des agresseurs présumés, tentent de le menotter, mais le groupe vient à sa rescousse. L'un des policiers est obligé de s'attacher à lui au moyen de menottes. L'homme qui se trouve à la barre nie les violences. Selon lui, les policiers l'ont arrêté par erreur à cause du chaos général. Un autre prévenu est accusé d'avoir lâché son chien sur les Roms en fuite. Sa mère avait tenté de le joindre quelques instants plus tôt. Elle était inquiète car sa sœur de 15 ans était à Auchan alors qu'il y avait des Roms dans le magasin. Selon les policiers, le suspect a lâché son chien sur les Roms en fuite en criant « Vas-y, attaque ». L'homme nie avoir prononcé ces mots. Il affirme que son chien, qui n'était pas attaché, a simplement suivi le groupe de fuyards.
Antoine Maret au tribunal de Bobigny. La justice s'ordonne un procès à Paris pour l'oncle de Bachar al-Assad. Le juge Renaud Van Ruymbeek renvoie Rifaat al-Assad sur les bancs des prévenus pour qu'il soit jugé pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée et de détournement de fonds publics aux dépens de l'État syrien. Il est soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un empire immobilier estimé à 90 millions d'euros. L'Union européenne, le Canada et Cuba s'insurgent contre la nouvelle décision de Washington. Les États-Unis ont décidé de permettre des actions en justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba. Une décision qui pourrait décourager les investissements étrangers à Cuba. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'a confirmé, Grégory Phillips, le jour anniversaire du débarquement de la baie des Cochons en 1961.
La date, évidemment, n'a pas été choisie au hasard et l'administration Trump réactive donc cette loi qui date de 96, qui s'appelle la loi Helms-Burton et qui permet d'attaquer en justice les sociétés qui, effectivement, font du commerce avec Cuba. Tous les présidents américains avaient mis le chapitre 3 de cette loi entre parenthèses et donc l'équipe Trump s'en empare et dit qu'à partir du 2 mai prochain, eh bien, toute entreprise ou toute personne qui fait des affaires avec Cuba devra respecter la décision américaine. Alors pourquoi maintenant, Aurélie? Eh bien, il s'agit d'accentuer encore un peu plus la pression sur le régime cubain, soutien de Maduro au Venezuela. On est très très loin du rapprochement qui avait été entamé avec Cuba par l'administration précédente Obama. Et puis aussi, ça permet, c'est un peu du billard à plusieurs bandes, d'accentuer la pression sur l'Union européenne qui, vous le savez, est en plein bras de fer commercial avec les États-Unis parce que les entreprises européennes risquent d'être concernées. Accor, par exemple, ou Pernod Ricard. Il faut savoir qu'à Cuba, l'UE est le premier investisseur étranger et le premier partenaire commerciale de la Havane. Alors Bruxelles a immédiatement fait savoir qu'elle réagirait et qu'elle était prête pour contrer cette disposition américaine à saisir l'Organisation mondiale du commerce.
Grégory Phillips en direct de Washington. L'Allemagne en petite forme. Le gouvernement allemand réduit sa prévision de croissance pour cette année à 0,5%. L'Allemagne veut croire en une année 2020 plus agréable avec 1,5%, mais entre la guerre commerciale menée par les États-Unis et les tergiversations autour du Brexit, l'environnement économique mondial est très incertain. La preuve, Ludovic Piétenu, Berlin espérait déjà beaucoup mieux pour 2019.
Il y a encore quelques mois, le gouvernement allemand tablait sur quasi 2 points de croissance pour cette année, 1,8 très précisément. Et puis à mesure que les semaines ont passé, il a révisé à la baisse, n'espérant plus qu'un point. Puis aujourd'hui, 0,5%. Réaliste, le ministre de l'économie Peter Altmaier se dit aussi optimiste.
Wir erwarten eine langsame, aber solide wirtschaftliche Entwicklung.
Peter Altmaier s'attend à un développement économique lent mais solide et nous sommes convaincus, dit-il, que la croissance de cette année sera maintenue. Pas de récession donc, c'est-à-dire deux trimestres consécutifs d'un taux négatif. L'Allemagne y a déjà échappé l'an dernier avec un seul trimestre dans le rouge. Peter Altmaier veut croire que Berlin aura cette année encore les reins suffisamment solides. L'économie nationale reste intacte, dit-il. L'emploi est record, les revenus augmentent, les dépenses des ménages aussi. Idem pour la construction de logements. Il est vrai que l'économie allemande garde la tête hors de l'eau grâce à la demande intérieure. Le problème, ce sont les exportations qui baissent vers la Grande-Bretagne à cause des incertitudes liées au Brexit, vers les États-Unis à cause des menaces du président Trump de créer des barrières douanières sur l'automobile, vers la Chine enfin à cause du ralentissement violent de la croissance. Dans la zone euro, la première économie est en queue de peloton avec l'Italie. Qui l'aurait imaginé, un scénario étonnant, mais pourtant bien réel pour l'Allemagne, où tous les économistes invitent le gouvernement à puiser dans les réserves de ses excédents budgétaires accumulés toutes ces dernières années pour investir et relancer l'économie du pays.
Ludovic Piétenu à Berlin. Comme tous les mercredis, zoom sur la campagne des élections européennes. Cette semaine, nous allons en Grèce, où quelques 10 millions d'électeurs doivent élire 21 eurodéputés le 26 mai prochain. D'après les sondages, le parti de droite Nouvelle Démocratie devrait arriver en tête. Il totalise 35% d'intention de vote, devant Syriza, 26%. Ce score serait un revers pour le parti de gauche radicale, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras. Quant au parti nationaliste, il se présente divisé, mais ils espèrent bien profiter de l'euroscepticisme ambiant, car d'après le dernier Eurobaromètre, la Grèce est le pays de l'Union le plus eurosceptique. 70% des Grecs interrogés n'ont pas, ou plutôt pas, confiance en l'Union européenne. Audrey Tison, vous avez suivi dans une réunion publique un eurodéputé conservateur qui espère bien être réélu.
Ce soir-là, Notis Marias prend la parole dans un bar. Il a réuni une trentaine de jeunes gens qui n'ont encore jamais voté et il annonce rapidement la couleur.
J'appartiens à ceux qu'on appelle les eurosceptiques. Nous sommes un mouvement antisystémique, patriotique et anti-mémorandum.
Le mémorandum, c'est l'ensemble des règles et restrictions budgétaires imposées à la Grèce pour rester dans la zone euro. Tout ce que ne veut plus Notis Marias.
Actuellement, les principales décisions sont prises par la Banque Centrale Européenne et par l'Eurogroupe. Et les peuples doivent juste accepter. On doit donc changer les institutions pour pouvoir demander des comptes et avoir une plus grande possibilité de participer.
Un discours qui suscite l'intérêt dans la salle, notamment chez Alexander, 20 ans.
Moi, avant d'entendre M. Maria, je ne réalisais pas l'importance de l'Europe. Mais maintenant, je me rends compte que c'est quelque chose de très important et qu'on doit avoir une voix forte.
À la table voisine, on trouve Katerina, une étudiante de 18 ans qui hésite encore à aller voter.
Je suis venue par curiosité, pour m'informer, pour entendre des choses différentes de ce qu'on entend généralement.
Une chose est sûre, elle ne choisira ni Syriza, la gauche radicale actuellement au pouvoir, ni la Nouvelle Démocratie, le principal parti de droite.
Ah non, je ne voterai jamais pour eux, parce qu'ils ont prouvé qu'ils ne tiennent pas leurs promesses et qu'il n'y a pas de réelle idéologie politique derrière.
Et nombre de Grecs partagent son point de vue sur Syriza. Le parti d'Alexis Tsipras ne devrait arriver qu'en deuxième position.
Le 26 mai, ce sont les élections européennes, mais aussi les municipales en Grèce. Des élections législatives se tiendront en octobre ou en novembre. Londres en partie paralysée aujourd'hui. Depuis hier, des militants écologistes se mobilisent dans la capitale britannique à l'appel du mouvement Extinction Rebellion. Ils protestent contre l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique et exigent du gouvernement qu'il ramène à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. On retrouve Antoine Gignot à Londres et à Roller.
Ambiance plateau du Larzac ou colline écossaise sous l'arc de triomphe de Marble Arch, avec des tentes, des barrières, des guitares. Ils sont quelques centaines à se relayer comme Adrian Porter pour bloquer les accès du centre de Londres.
Waterloo est encore bloqué, Oxford Circus aussi, puis il y a Marble Arch où nous nous trouvons et la place du Parlement. On ne veut pas causer des problèmes aux gens, mais c'est tellement difficile d'attirer l'attention si on ne bloque rien. On a quand même beaucoup de soutien avec des gens des immeubles à côté qui nous apportent du café.
Des gens comme Daniel Lee, venus spontanément ce matin grossir les rangs des manifestants face à l'urgence climatique.
Moi j'ai de l'asthme et un problème cardiaque. Ma mère en est morte. Ma grand-mère est morte d'une maladie chronique. Et je connais une petite fille à Londres qui est morte d'une crise d'asthme il y a 4 semaines. On laisse les enfants mourir. Ce gouvernement devrait avoir honte, et Theresa May aussi. Tout ce qu'on sait faire, c'est du gaspillage. Il faut que tous les pays se rassemblent et réfléchissent sérieusement à une manière de gérer le changement climatique. On n'a qu'une seule planète et elle est en train de mourir, de disparaître telle qu'on la connaît.
Daniel Lee prône comme première urgence le rétablissement de lignes de tram dans Londres. Les seuils de pollution annuels dangereux ont été dépassés cette année dès la fin du mois de janvier.
Antoine Gignot à Londres. À l'approche de l'élection présidentielle en Ukraine, le comédien candidat Volodymyr Zelensky en tête dans tous les sondages et le président sortant Petro Poroshenko ont fini par se mettre d'accord pour organiser le seul face-à-face de la campagne. Ce débat aura lieu après-demain soir à 48 heures du vote dans un lieu inédit, le Stade Olympique de Kiev. Une enceinte et une date que Zelensky a fini non sans mal par imposer à son rival, Claude Bruyot.
C'est peut-être la fin d'un long suspense, mais vraiment tout y est passé en termes de désaccord sur le cadrage de ce face-à-face. Il y a notamment eu la question de la date. Petro Poroshenko a tout fait pour que le débat ait lieu dimanche dernier, persuadé alors qu'il ressortirait vainqueur d'une confrontation d'idées et d'arguments avec Volodymyr Zelensky, inexpérimenté politicien mais fin communicant. Le président sortant, donné battu dans tous les sondages, espérait alors bénéficier d'une dernière semaine de campagne pour remonter la pente. Ce que n'a pas voulu, bien évidemment, l'équipe de Volodymyr Zelensky. Il y a ensuite eu l'épisode des tests médicaux pour démontrer la parfaite santé des deux finalistes de la présidentielle ukrainienne et le fait que le comédien candidat réalise ses examens à l'abri des regards a permis au camp d'en face d'exploiter le manque de transparence. Il reste toutefois un dernier écueil à franchir avec le partage des frais d'organisation dans le stade olympique et enfin la présence des deux candidats sur une ou deux scènes vendredi soir.
L'ancien président péruvien Alan Garcia est mort. Il a succombé à ses blessures après une tentative de suicide. Alan Garcia, 69 ans, s'est tiré une balle dans la tête au moment de son arrestation. L'an dernier, il avait été accusé d'avoir reçu de l'argent du groupe brésilien Odebrecht à l'occasion de la construction d'une ligne de métro dans la capitale Lima. Demain jeudi, le sud-ouest de l'Hexagone passera la journée sous un épais voile nuageux. Sur le reste de la moitié ouest jusqu'au sud-est, le ciel sera plus lumineux. Des nuages parfois accompagnés d'averses recouvriront les Alpes dans l'après-midi. Au nord de la Seine et sur le nord-est, le soleil dominera. Les températures seront douces, entre 4 et 11 degrés le matin, de 19 à 24 à l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Chloé Leblond.